Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique en France et dans un peu plus de 120 pays dans le monde. Et pour l'occasion, RFI vous propose une programmation spéciale. Toute la journée, nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir d'accueillir dans nos studios l'une des plus grandes voix de la scène musicale, de la world music, même si je sais qu'elle n'aime pas beaucoup cette expression. En tout cas, vous l'entendez sourire, en tout cas elle fait partie du cercle très fermé des artistes africains ayant remporté 3 Grammy Awards. Le prix le plus prestigieux de la musique. Alors elle est certes chanteuse, mais elle est aussi une femme engagée, battante, notamment aux côtés de l'UNICEF comme ambassadrice de bonne volonté. Avec sa fondation Batonga, elle se bat pour promouvoir la scolarisation des filles en Afrique et le quotidien britannique The Guardian, tenez-vous bien, la présente comme l'une des femmes les plus influentes au monde. Angélique Kidjo, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Moi je vais super bien.
C'est un marathon radiophonique aujourd'hui pour
ça,
vous.
Ça me plaît beaucoup.
Vous étiez dans la matinale de RFI aux côtés de Nathalie Amar et vous restez avec nous, avec les auditeurs de RFI jusqu'à ce soir pour un spécial couleur tropicale aux côtés de Claudie Ciard. Vous êtes ici chez vous, à la maison, jusqu'à 11h heure de Paris en tout cas. Vous êtes la rédactrice en chef d'Appel sur l'actualité. C'est donc vous qui avez déterminé le contenu de l'émission. J'ai eu l'impression que ça n'a pas été très compliqué pour vous de trouver 3 sujets dans l'actualité. Je me suis dit, tiens, Angélique Kidjo, et en même temps ça ne me surprend pas, vu tous vos engagements, je me suis dit Angélique Kidjo est vraiment une mort d'actualité.
Oui, ça n'a pas été difficile, mais maintenant c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, donc il a fallu que je coupe dedans et que j'en trouve 3.
Alors 3 sujets, vous nous interpellerez dans quelques minutes sur la question migratoire, on voit bien que les pays européens sont divisés plus que jamais sur le sort des migrants, et vous posez cette question aux auditeurs de RFI, quelle doit être la réponse des dirigeants africains, des dirigeants particulièrement silencieux, notamment la semaine dernière, avec ce bateau Aquarius qui errait en Méditerranée avec à son bord plus de 600 migrants. Vous souhaitez également lancer le débat avec les auditeurs de RFI sur la parité homme-femme, notamment dans les parlements africains. On connaît votre engagement pour l'émancipation des femmes. La parité, oui, mais pourquoi faire et surtout comment y parvenir? Donc vous qui nous écoutez, appelez-nous, témoignez, venez raconter à Angélique Kidjo comment ça se passe dans votre pays. Et puis nous terminerons l'émission Angélique Kidjo, c'est votre 3e sujet, avec un thème, on va dire, plus festif, plus léger, mais qui déchaîne les passions. C'est la Coupe du Monde de football, le gros événement sportif de la planète. Donc si comme Angélique Kidjo, ces sujets vous interpellent, vous nous rejoignez, vous nous appelez 33 9 693 693 70 et je peux vous dire Angélique Kidjo qu'il y a déjà beaucoup de monde au standard qui souhaite dialoguer avec vous, c'est un privilège,
c'est un
honneur
aussi.
Effectivement.
Merci.
Je disais en préambule, Angélique Kidjo, que vous étiez connue pour votre engagement, c'est vrai que vous êtes une militante, vous auriez pu vous contenter de chanter, d'être sur scène, de faire la belle, si vous me permettez l'expression, mais non, vous avez besoin d'aller sur le terrain, d'aller prêcher avec votre bâton de pèlerin la cause des plus démunis.
Mais quand on est chanteur en Afrique, on n'est pas seulement là pour chanter qu'il a fait beau aujourd'hui, qu'il n'a pas plu, et que on raconte une histoire. Il y a beaucoup de traditions orales en Afrique. Moi, je suis une conteuse et dès le départ, depuis mon enfance, mes parents ne m'ont jamais dit faut pas écouter les nouvelles, n'ont pas essayé de me protéger de la réalité du monde dans lequel je vivais. Et mon père disait toujours c'est aujourd'hui, demain ça peut changer, et il faut être toujours dans un questionnement de soi, de son monde, de son entourage, et être intransigeant par rapport aux droits des humains.
Oui, et votre entourage, vous l'avez découvert très jeune, vous parlez beaucoup de votre papa, mais votre maman, lorsque vous aviez 8 ans...
6 ans.
6 ans, vous emmenait dans des réunions de femmes qui essayaient de défendre leurs droits.
Ouais, ouais, avec Madame Johnson, ils avaient une association de femmes où elle demandait le droit de vote pour les femmes et d'autres choses. Moi, j'avais 8 ans, je comprenais rien à ça. Mais elle me disait, viens chanter avec nous, parce que nous, si on ouvre notre bouche, là, tout le monde va tomber raide mort. Alors, viens chanter avec nous. Alors, moi, j'arrivais, j'étais contente d'y aller parce que j'avais pas envie de faire mes devoirs déjà pour commencer. C'était une bonne excuse pour pas les faire. Et j'étais là, je chantais la chanson de Myriam Makeba, Retreat Song, mais en fond. Et j'étais là au milieu. Et ouais, j'étais toute petite, toute minuscule.
Et ça me plaisait bien. Je signale, c'est une parenthèse, Angélique Kidjo, je signale aux auditeurs qui nous écoutent à la radio qu'ils peuvent vous voir, nous voir en ce moment sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Et ça vaut vraiment le détour. Vous, j'imagine que vous entendez à la radio l'énergie évacuée par Angélique Kidjo, mais la voir en vidéo, ça vaut vraiment le détour. Vous êtes connue, Angélique Kidjo, pour votre liberté de parole, pour votre franc-parler. Vous aviez envie de parler justement avec les auditeurs de la question migratoire. Comment avez-vous réagi en allumant votre radio il y a un peu plus de 8 jours et en apprenant qu'il y avait plus de 600 migrants sur un bateau en mer Méditerranée que personne ne voulait, puisque ni l'Italie ni Malte ne voulaient accueillir ce bateau. La France, elle, ne réagissait pas. Il a fallu attendre 2-3 jours pour que l'Espagne accepte d'ouvrir ses bras.
Mais la crise migratoire, ce n'est pas, ça date pas d'il y a 10 jours. Ça date de bientôt 2 ans, où les jeunes Africains se retrouvent sur des bateaux de fortune pour échapper à la misère et échapper à un avenir qui n'a que de nom. Et ce bateau-là, il est là. Pourquoi ? Parce que les pays africains ne veulent pas de leurs jeunes. Donc c'est ça la question, le questionnement pour moi, il est là. Il faut comprendre pourquoi cette migration s'est accélérée ces deux dernières années. Et c'est que, il y a un problème qui interpelle le monde entier. Et cette migration qui vient de l'Afrique, ce n'est pas seulement de l'Afrique, ça vient de la Syrie, ça vient de plein d'endroits du monde qui sont déstabilisés. Alors qu'est-ce qu'on fait pour construire un monde où nos jeunes peuvent rester chez eux, rêver et travailler si on ne partage pas les richesses de ce monde. Donc il est urgent, c'est une responsabilité commune aux pays riches comme aux pays pauvres de répondre à ça. Parce que quand les jeunes commencent à ne plus rêver dans son pays, ce n'est plus les migrants dont on parle, c'est autre chose.
C'est autre chose. Et en même temps, on voit bien que l'Europe se transforme en forteresse, alors que, paradoxalement, on constate ces derniers mois une baisse sensible des arrivées sur les côtes européennes, et en même temps, les pays européens qui durcissent leur législation. Vous comprenez, ce que nous vivons en ce moment en Europe?
C'est l'instrumentalisation des migrants, de l'immigration, pour se faire élire. Et c'est ça qui amène les extrémistes de droite. On oublie que Hitler a commencé avec une minorité au Parlement allemand. Et si on a envie de revivre cette période-là, pourquoi pas? Et moi, je trouve que c'est les hommes politiques en Occident, leur façon de faire, d'utiliser tous les sujets, les instruments, sans penser à être fédérateur des peuples, à dire la vérité au lieu de mentir tout le temps, c'est de souffler sur les braises et les conséquences seront dramatiques.
Mais les dirigeants africains disent la vérité, eux ?
Aucun homme politique, c'est une pathologie politique. Le mensonge est une pathologie politique. Moi, je connais pas de politicien qui dise la vérité. S'il dit la vérité, il peut pas faire la politique. Donc, ça étant là, mais il y a des vérités qui doivent être dites. Quand on ment sur les chiffres de l'immigration, quand on n'est pas en mesure, en tant que dirigeant africain, d'avoir un pays où nos jeunes peuvent rester, c'est qu'il y a un problème. Où va l'argent?
L'argent de la communauté internationale versé aux États pour les aider à se développer.
Alors on a beaucoup. Mais pourquoi l'Union européenne doit donner de l'argent aux pays africains pour qu'ils gardent leurs jeunes chez eux? C'est la responsabilité des dirigeants africains. Il faut arrêter d'être des mendiants. Nous avons des moyens de tenir nos enfants à la maison. Pourquoi est-ce qu'on part? Moi, je suis partie de chez moi parce que je n'arrivais plus à faire mon art parce qu'à cause de la dictature. Mais si j'avais pu faire la carrière que je fais aujourd'hui en étant chez moi, jamais je serais partie. Mais c'est une honte pour nous, Africains, de voir nos jeunes dans des bateaux et d'avoir le silence radio total des chefs d'État africains. Il faut absolument qu'on les entende.
Et ce silence, vous l'expliquez comment? On a pu entendre sur l'antenne de RFI un des experts des questions migratoires, Ali Ben Saad, et il nous disait ce silence illustre le mépris des gouvernants pour leur population.
Je l'ai toujours dit. Est-ce que les gouvernants africains ont même une conscience de ce que c'est que leur peuple? Est-ce qu'ils descendent de leur présidence pour aller dans les villages? Les populations ne voient pas leur président. Il n'y a pas de contact vraiment avec les présidents. C'est cette tradition ancienne. Quand on est chef, on est au-dessus. On se prend pour le bon Dieu. Mais attends, mais qui c'est qui vous a mis en place? Et c'est ça le problème. S'ils ont du mépris pour leur population, ils y arriveront jamais. Parce que pour moi, quand on est un chef d'État ou quand on fait de la politique, ce qui serait intéressant pour ces politiciens, c'est se dire, comment on va se souvenir de nous? Qu'est-ce qu'on a laissé comme héritage pour que les jeunes, qui pourraient émuler les jeunes pour faire de la politique différemment? Non, il n'y a rien de tout ça.
Angélique Kidjo, les auditeurs nous appellent, ils souhaitent évidemment dialoguer directement avec vous, 33 9 693 693 70. Bonjour Ismaël.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Niamey, nous vous écoutons avec Angélique Kidjo.
Oui, j'ai écouté avec intérêt justement ce que vient de dire la grande cantatrice Angélique, et effectivement je partage entièrement son point de vue. Et au-delà de ça, je crois que la question migratoire est une question qui réellement n'est pas voulu, n'a pas voulu traiter les gouvernants. Ils font du pis-aller, ils font semblant de traiter ce problème. Ce problème n'a jamais réellement été traité, c'est de la démagogie. Je pense qu'aujourd'hui, elle a dit, tous les pays africains ne doivent pas s'isoler individuellement pour traiter cette question de migration. C'est un fléau africain. Il faut que tous les chefs d'État se retrouvent pour prendre à bras le corps ce problème et le traiter. Et ça se fera à travers l'UIA, parce que l'Union africaine, je ne vois pas réellement ce qu'elle attend de faire. Il faut qu'elle s'y implique. Il faut que l'Union africaine prenne sérieusement ce problème et arrête de rentrer dans des débats inutiles. L'Afrique est en train de souffrir, la jeunesse est en train de souffrir. Et si on continue comme ça, l'Afrique n'aura pas d'avenir. L'avenir de l'Afrique sera en Europe. C'est dommage.
Angélique Kidjo, l'Afrique doit parler d'une seule voix. L'Union africaine, elle se réunit pourtant deux fois par an. Et on a l'impression qu'elle subit l'agenda des Européens, de l'Union européenne, voire même des États-Unis avec le durcissement de la politique migratoire de Donald Trump. Pourquoi elle ne parvient pas, l'Union africaine, à taper sur la table et à dire aux Européens, maintenant, on va faire ainsi et on change les choses?
Mais déjà, au sein du continent africain, quand il y a un chef d'État africain qui a servi son peuple, les autres chefs d'État ne disent rien. Parce que dans la charte de l'Union africaine, il y a certainement une clause qui dit on se soutient dans le pire comme dans le meilleur. Donc c'est un club, ce n'est pas des dirigeants. C'est des VRP qui sont là à prendre de l'argent, mettre dans leur poche. Ce qui les intéresse, d'avoir de belles chaussures, de mettre l'argent dans des comptes en Suisse, d'avoir des parts dans les groupes. Les paradis fiscaux sont aussi ouverts au président africain. Donc, je pense qu'il est temps aussi que l'Europe, tous ceux qui envoient de l'argent en Afrique et qui ne voient pas de changement, doivent commencer à se dire comment on fait. Quand on investit de l'argent quelque part, on attend un retour sur investissement. Et quand il s'agit de l'Afrique, on n'attend pas de retour, on donne un chèque en blanc à des dirigeants africains qui ne font rien. Et on continue. Donc, si l'Union européenne veut vraiment régler le problème de la migration, il faut qu'ils repensent à leur responsabilité vis-à-vis de l'argent qu'ils donnent et à leur relation avec les chefs d'État africains. Il n'y a pas de responsabilité. On donne l'argent pour ça. Pourquoi on ne l'a pas?
Effectivement. L'un de vos compatriotes nous appelle de Tanger. Il s'appelle Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Monsieur Gomez et salut à la compatriote Angélique Kidjo.
Vous allez bien?
Très bien, monsieur. Vous?
Ça va, moi, je suis bien.
En pleine forme, je peux vous assurer. On vous écoute, Pierre.
Oui, monsieur Gomez, je pense que l'immigration est en Afrique une quasi-fatalité pour la plupart des jeunes qui quittent le continent, faut-il le rappeler, pour des raisons économiques comme Angélique Kidjo l'a rappelé tout à l'heure. Et avec la population africaine qui va doubler dans les prochaines décennies, et je pense pour ma part que ce serait un véritable apocalypse migratoire si rien n'est fait entre-temps. Et je pense, il y a, si le temps le permet, je peux dire deux ou trois leviers sur lesquels on peut véritablement agir pour trouver une solution par rapport à ce phénomène migratoire. La première chose, je me dis qu'il est important maintenant de faire participer les grands groupes industriels européens à l'effort de développement sur le continent africain. Ces grands groupes ont des activités économiques importantes sur le continent. Par exemple, Arva, qui est spécialisé dans la production de l'énergie et qui s'approvisionne au Niger, qui est le pays le plus pauvre du monde, doit pouvoir aider ce pays, ne serait-ce que par exemple dans le développement de l'énergie. Il y a par exemple les barrages hydrauliques à vocation énergétique et agricole que Areva peut aider le Niger à mettre en œuvre. Et sans énergie, comme nous le savons, aucun pays ne saurait se développer. Et ces barrages pourront être des facteurs de stabilisation l'implantation des populations autour de ces points d'eau pour le développement de l'activité ou des activités agricoles tout simplement. La deuxième chose...
Alors attendez, Pierre, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais le temps passe très très vite. Angélique Kidjo, vous écoutez attentivement. Un commentaire sur les
Moi, je trouve qu'il a raison. Il y a aussi à la base de l'immigration, c'est aussi les idées reçues, les clichés qu'on a sur l'Europe et les clichés que les Européens ont sur l'Afrique. C'est-à-dire que on pense en Afrique, quand on vient en Europe, on s'enrichit. Et qu'on n'a qu'à se baisser pour ramasser de l'argent, ce n'est pas vrai. Et c'est cette Europe-là, ces pays riches que nous vendent les télévisions des pays occidentaux, qui faussent complètement la perception de ces jeunes-là. Et de l'autre côté, il y a les Occidentaux qui pensent que nous sommes des paresseux, on ne peut rien faire. Mais non, mais à qui profite tout ça? Réellement, ce qu'il vient de dire par rapport à Areva, c'est vrai. Areva est au Niger, c'est la ressource principale du Niger, c'est l'uranium. Si les pauvres, les femmes au Niger ont beaucoup d'enfants, quand on est pauvre, on fait beaucoup d'enfants. Si on développe le pays, on fera moins d'enfants. C'est-à-dire qu'on va créer de l'emploi. Et les grands groupes n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Si vous faites du business sur le long terme en Afrique, il faut qu'ils investissent dans du business propre et qu'on tienne tout le monde responsable. C'est-à-dire qu'on travaille et dans les bonnes conditions comme on travaillerait ici.
Donc, ce qui est paradoxal, c'est que l'uranium permet d'éclairer une grande partie du territoire français, notamment grâce à Areva, et que l'uranium qui est sur place au Niger, eh bien, les Nigériens ont bien du mal.
Mais c'est l'uranium du Niger qui permet aux Français d'être éclairés. Et c'est ça que les Français ne comprennent pas dans cette histoire de migration, en se disant pourquoi ils se demandent pas pourquoi les gens viennent ici. Si c'est vous ne profitez que des ressources du continent africain sans se demander est-ce que ces ressources-là peuvent créer des emplois en Afrique pour qu'on évite l'immigration, on n'y arrivera pas.
Kissane est en région parisienne. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Nous vous écoutons avec Angélique Kidjo.
Oui. En fait, j'aimerais dire d'abord merci à Angélique Kidjo pour tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique et le monde, hein, en tant que chanteuse, militante. Et quand je dis qu'il faut confier le pouvoir aux femmes, je pense beaucoup à des femmes comme elle. Encore merci. Hein. Donc j'aimerais dire que bon, moi,
Non mais elle a l'air. Vous avez l'air ému, touché par les compliments.
Complètement.
Ou vous êtes un peu blasé quand vous dites.
Non, pas
la
du
même
tout,
chose.
Pas du tout. Moi, je ne suis jamais blasé par les compliments parce que c'est pas facile de faire ce que chacun d'entre nous on fait. C'est ça, la reconnaissance de ce que chacun d'entre nous fait n'est reconnue nulle part. C'est-à-dire que tout le monde est devenu transparent et il n'y a que cette tyrannie des leaders de ce monde qui mentent sans arrêt pour nous diviser, quoi.
En tout cas, votre militantisme est reconnu, hein. Votre engagement est reconnu. Vous avez été primé la semaine dernière. Vous avez reçu le prix Adami de l'artiste citoyen. Il y a 2 ans, vous avez reçu le prix ambassadeur de la conscience décerné par Amnesty International. Donc voilà, votre engagement est reconnu. Je vous coupez la parole, Kissane.
Oui, c'est cool. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que bon, la façon dont l'Union européenne a géré l'histoire de l'Aquarius est vraiment révélateur de l'incapacité des dirigeants européens à gérer les questions migratoires. Parce que pour moi, quand on se réclame de pays prônant les droits humains, le respect des conventions internationales, et même la nécessité de secourir des personnes fuyant des pays en guerre ou la misère, l'Union européenne doit quand même faire en sorte d'imposer des quotas à tous les pays membres. Et en imposant ces quotas, je pense que si tous les pays prennent à peu près une vingtaine ou 25 personnes sur les 600, c'est pas ça qui va faire exploser la démographie ou l'économie européenne.
Angélique Kidjo, attendez, ne raccrochez pas Kissane. Angélique Kidjo, que vous inspire cette politique des quotas?
Tout d'abord, moi, je dirais que cette histoire que l'Europe ne puisse pas absorber les gens, c'est du pipeau, parce que regardez le Liban. Moi, j'étais au Liban il y a pas longtemps. Au Liban, ils sont à peu près 6,5 millions de population, et ils ont absorbé 1,5 million de Syriens. Le Liban, c'est petit par rapport à la France. Eux, ils font cet effort. Et toute l'Union européenne ne peut pas faire d'effort parce que, justement, on est rentré dans cette logique d'instrumentaliser les migrants pour aller vers l'extrême.
Oui, en tout cas, les Italiens vous diront, nous, depuis 5 ans, nous avons accueilli 700 000 personnes. C'en est trop. Et c'est comme ça que l'extrême droite est arrivée au pouvoir avec un ministre de l'Intérieur qui a clairement décidé, il l'a rappelé encore en début de semaine, de verrouiller les frontières et de ne plus accueillir les migrants.
Je souhaite bien à ce Premier ministre en Italie.
Ministre de l'Intérieur.
De l'Intérieur qui ne sera jamais en position de migrer quelque part.
C'est dit, il est bientôt 10h30 à Paris, vous restez avec nous, on rejoint la rédaction pour un point complet sur l'actualité et on revient évidemment dans 10 minutes pour la suite de cette émission spéciale, toujours en compagnie d'Angélique Kidjo. À tout de suite.